Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Choulin, page 139, Daf Kuf Lamed Tet. Bonne écoute et bon limoud.
Bar Katanahu, cet oiseau aurait dû être exécuté. Et comment se fait-il qu'on le retrouve sur notre chemin? Et la délo gamardine. C'est donc que la sentence n'a pas encore été prononcée. Ou bah il a touillé les bedina. Et on doit cependant le conduire au Beddin, Vekiyum Ebe, Ubiar Tahara Mikirbecha. Et ainsi appliquer le verset, tu élimineras le mal du sein du peuple d'Israël. Rashi commente que nous avons le devoir de conduire au Beddin quelqu'un qui doit être condamné à mort, afin d'éliminer les fauteurs du peuple d'Israël. Hane Mugdashin, Echidame. Dans quel cas la mitzvah de Shiluah Haken peut-elle concerner un oiseau Mugdash consacré au Beth Amikdash? Il est ma derveleken betor beto veagdeshe. Si tu veux dire qu'il s'agit du cas où il avait chez lui un nid avec des oiseaux et qu'il l'a consacré au Beth Amikdash, mi mechayev. Est-ce que dans un tel cas, il est tenu par la mitzvah de Shiluah Haken, qui est carré kansipor, prat le mezuman? Or, la Torah emploie dans ce verset une expression particulière de i carré, qui signifie lorsque tu rencontreras de façon fortuite ce nid d'oiseaux. Cette expression exclut qu'il s'agisse d'un nid d'oiseau lui appartenant. Et là, dechazeken be'alma ve'agdeshe. La Gemara propose donc qu'il s'agisse du cas où quelqu'un ait rencontré un nid d'oiseau sur son chemin et ait décidé de le consacrer au Beth Amikdash. Ou mi-kadosh. Est-ce que dans un tel cas, ces oiseaux ont-ils vraiment le statut de kadosh, d'être consacrés au Beth Amikdash? Or, le verset dit, dans Vaikra, Kavzain, Pasuk Yud Dalet, ve'ish ki yagdish et beto kodesh l'Hashem. Lorsqu'un homme va sanctifier sa maison pour qu'elle soit réservée à Hachem. Amar Rachmana, ainsi dit la Torah. Ma beto birshuto, afkol birshuto. De même que dans ce verset, la Torah a incité sur le fait que cet homme sanctifiait sa maison, qui lui appartient en propre. De même, dans tous les cas, on ne peut destiner un objet au Beth Amikdash que s'il nous appartient en propre. Or, lorsque cet homme aperçoit ce nid d'oiseau sur son chemin et qu'il décide de le consacrer au Beth Amikdash, il ne lui appartient pas encore. Ela de'agbehinu la'efrochim ve'agdeshinhu. L'Agmara propose donc d'établir qu'il s'agisse du cas où un homme ayant aperçu un nid sur son chemin en aurait fait agbara, c'est-à-dire l'aurait pris en main et soulevé, ce qui est un acte de kinyan, un acte par lequel l'homme entre en possession d'un objet, étant ainsi par cet acte devenu propriétaire des oisillons, il les aurait ensuite consacrés au Beth Amikdash. Ve'adar hadrinhu. Après cela, la mère des oiseaux serait revenu se poser sur son nid, et à ce moment-là, il aurait eu la mitzvah de Shiluah Haken. La Gemara réfute cette proposition. Aï afilo bechulin nami lo mechayev. Car dans un tel cas de figure, même si les oisillons n'avaient pas été consacrés au Beth Amikdash, mais qu'il s'agissait d'oiseaux chulin, on n'aurait pas non plus été tenu de réaliser la mitzvah de Shiluah Haken, d'etnan, car la Mishnah Odav Kuf Mem Alef nous enseigne, Natal et Abanim ve'erziran leken. Si quelqu'un a pris les oisillons et les a remis ensuite dans le nid, vers Harkar Chazra Ahem, Alehen, et qu'ensuite la mère est revenue se poser sur son nid, Pator Milchaler, on est dispensé dans ce cas de la mitzvah de renvoyer la mère. Ceci car dans ce cas, les oisillons sont devenus mezuman, entrés en notre possession. Il n'est pas possible que la Mishnah fasse allusion à ce cas, en disant que les oiseaux consacrés au Beth Amikdash n'entrent pas dans le cadre de la mitzvah de Shiluah Haken, alors que dans un tel cas, même s'il s'agissait d'oiseaux roulin, qui ne sont pas consacrés au Beth Amikdash, on aurait été également dispensé de la mitzvah de Shiluah Haken. La Gemara propose une autre possibilité pour définir exactement le cas que la Mishnah vient exclure. Et là, de'agba alahem ve'agdesha ve'adra. Il s'agirait du cas où il aurait fait acquisition de la mère par un acte de agba'a, c'est-à-dire prendre en main l'oiseau ou l'objet et le soulever pour en marquer l'acquisition. Il aurait ensuite sanctifié cet oiseau et l'aurait destiné au Beth Amikdash. Et cet oiseau serait ensuite revenu se poser sur son nid. L'oiseau étant maintenant Mekoudash, on serait dispensé de la mitzvah de Shiluah Haken, et c'est peut-être ce cas-là que la Mishnah vient exclure. La Gemara répond qu'il n'est pas possible que la Mishnah vienne exclure un tel cas pour la raison suivante. Meikara ichayev le b'shiluah mekame de'agdesha. Car l'homme était tenu de réaliser la mitzvah de Shiluah Haken dès qu'il a pris l'oiseau en main, avant qu'il ne le consacre au Beth Amikdash. Et l'obligation qu'il a de réaliser la mitzvah de Shiluah Haken ne peut disparaître sans raison. La Gemara en apporte comme preuve la braïta suivante. De Tania, Rabbi Yochanan ben Yosef Omer, Igdish Chaya ve'Harkar Shachta, Patur Milechasot. Lorsque l'on fait la shrita, l'abattage rituel d'un volatile ou bien d'un animal sauvage, d'une chaya, tel un cerf, nous avons la mitzvah de Kisui Adam, qui consiste à recouvrir le sang de la shrita avec de la terre. Et la Braïta enseigne ici la halakha suivante. Lorsque quelqu'un a d'abord consacré une chaya, un animal non domestique, au Beth Amikdash, et après cela en a fait l'abattage rituel, il est dispensé de la mitzvah de Kisui Adam d'en recouvrir le sang. En effet, la mitzvah de Kisui Adam ne s'applique que lorsque la shrita permet la viande de l'animal abattu à la consommation. Mais dans le cas d'un animal Ekdesh, consacré au Beth Amikdash, la shrita que l'on va effectuer sera Ena Reuya, c'est-à-dire que la viande de cet animal ne pourra pas être consommée par tout un chacun. Il n'y aura donc pas dans ce cas de mitzvah de recouvrir le sang. La Braïta donne un deuxième enseignement. Shachata v'charkar ikdisha chayav lechasot. Si en revanche on a d'abord fait l'abattage rituel et après seulement on a consacré l'animal au Beth Amikdash, à ce moment-là on sera tenu de réaliser la mitzvah de Kisui Adam, de recouvrir le sang, shekvar nitrayev bekisui kodem shiyavol lidei hekdesh, car on était déjà tenu par cette obligation dès le moment où on a effectué la shrita, et donc avant d'avoir consacré cet animal au Beth Amikdash. Cette braïta a donc prouvé que le fait de destiner un animal au Beth Amikdash ne fait pas disparaître une obligation antérieure qui le concernait. En l'occurrence, ici, l'obligation de recouvrir le sang reste effective. Il en sera de même dans le cas de Shiloh Haken, étant donné qu'il était déjà tenu par l'obligation de renvoyer la mère oiseau, le fait de la consacrer au Beth Amikdash ne fera pas disparaître cette obligation antérieure. La question de départ n'a donc toujours pas été résolue. Quel cas précis la Mishnah vient exclure lorsqu'elle dit que les Mugdashim, les animaux consacrés au Beth Amikdash, ne sont pas concernés par la mitzvah de Shiloh Haken? Rav Amar, de Magdish Perot Shovacho, ou Mardou. Il s'agit du cas où la personne aurait consacré au Beth Amikdash des oisillons qui sont à lui. Littéralement, Perot Shovacho signifie les fruits de son pigeonnier. Étant donné que ces oisillons sont bien à lui, la consécration au Beth Amikdash prend effet. Et après cela, ces oisillons se sont enfuis. Littéralement, Mardou se sont rebellés, sont allés faire un nid ailleurs. Lorsque cet homme retrouvera ce nid sur son chemin et reconnaîtra les oisillons en question, il sera dispensé de la mitzvah de Shiloh Haken, car ces oisillons sont Mugdashim, consacrés au Beth Amikdash par lui-même. Et nous avons déjà vu que lorsque le verset dit « Shaler Teshalar, tu renverras la mère oiseau », c'est lorsque tu as uniquement la mitzvah de renvoyer cet oiseau. Mais cela ne concerne pas un oiseau que tu aurais le devoir de ramener à l'intendance du Beth Amikdash. Dans ce cas, ces oisillons, du fait qu'ils se soient enfuis, ne sont plus considérés comme mezouman, en possession de leur propriétaire, et donc lorsque celui-ci trouve ce nid à nouveau, s'il ne les avait pas consacrés au Beth Amikdash, il aurait été tenu de renvoyer la mère oiseau. Et c'est uniquement du fait qu'il soit Mugdashim, consacré, qu'il est dispensé de la mitzvah de Shiloh Haken. Pourquoi, demande Rashi, Rav précise-t-il qu'il s'agit d'un cas où l'on a consacré au Beth Amikdash des oisillons, et pas simplement des colombes? Il faut savoir qu'il y a deux types de Mugdashim. On peut consacrer un animal au Beth Amikdash afin que celui-ci soit offert en sacrifice, en korban, qui sont appelés les Kadshei Mizbeach. Il y a également les Kadshei Bedek Abayit, qui sont des animaux également destinés au Beth Amikdash, non pas pour qu'ils soient eux-mêmes offerts en korban, mais pour qu'ils soient propriété du Beth Amikdash. Rav ne veut parler que dans le cas de Kadshei Mizbeach, des oiseaux qui vont être destinés à être korban. Et en ce qui concerne les colombes, on ne peut apporter comme korban que des bnei yona, des oisillons. Les plus grands sont pasoul, impropres à être korban. Veshmuel amar, de magdish tarnegolto le bedek abayit. Pour Shmuel, quant à lui, la Mishnah exclut le cas de celui qui aurait consacré une poule au Beth Amikdash. Une poule ne peut être offerte comme korban, elle ne peut être kadshei mizbeach, car les seuls oiseaux qui peuvent constituer des korbanot sont uniquement les tourim, les tourterelles, ou les bnei yona, les oisillons des colombes. Lorsque cet homme consacre sa poule au bedek abayit, cela confère à l'animal une kedushat damim, sa valeur est sanctifiée. Si ensuite cette poule se sauve et que le propriétaire la retrouve, s'il s'agissait d'un animal choulin, du commun, le propriétaire aurait été détenu par la mitzvah de Shiloh Haken. Mais comme cet animal est consacré au Bedek Abayit, il sera dispensé de la mitzvah de renvoyer la mère de Shiloh Haken. La Gemara demande, Bishlama Shmuel lo amar kerav de kamukim la bekat shebedek abayit, On comprend bien pourquoi Shmuel a donné un exemple différent de celui de Rav, car il voulait enseigner un chidouche, une nouveauté halakhique, à savoir que même dans le cas où l'oiseau est uniquement consacré au Bedek Abayit, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre une kedusha, une sainteté intrinsèque, mais c'est uniquement sa valeur financière qui prend cette sainteté, c'est donc un degré moindre de kedusha, de sainteté, et malgré tout, on est dispensé de la mitzvah de Shiloh HaKen. Et la Rav, Maïta Amalo Amar Kishmuel. Mais pour quelle raison Rav n'a-t-il pas voulu enseigner comme Shmuel? Amar Lecha Rav, Rav te répondra, Davka Kapatre Mishiloah, Kegon Perot Shovacho, de Katshe Misbeach Ninhu. C'est uniquement dans le cas de Katshe Misbeach, des animaux destinés à être eux-mêmes korban, que Rav dispense de Shiloah HaKen, Kegon Perot Shovacho, comme les oisillons de son colombier, de Katshe Misbeach Ninhu, qui sont destinés eux-mêmes à être korban. De Kevan, de Katshe Ktushatagouf, car étant donné qu'il leur a été conféré une kedusha, une sainteté intrinsèque, les oiseaux eux-mêmes sont kadosh. L'opak akdushatayu minayu. Dans ce cas-là uniquement, même lorsque les oiseaux s'enfuient, leur sainteté, leur kedusha, ne les quitte pas. Aval be magdish tarnegol to le bedek abayit. Mais lorsque quelqu'un consacre par exemple une poule au bedek abayit, ce qui est le cas dont a parlé Shmuel, des lav kachem isbear, où l'oiseau n'est pas destiné à être un korban, des kdushat damim be almahu. Et dans ce cas-là, la sainteté ne réside que sur la valeur financière de l'oiseau, kevan demarda, paka kedushatayu, vechayevet beshiloach. Lorsque la poule s'enfuit, sa kedusha, sa sainteté disparaît, car elle ne concernait que sa valeur, et si le propriétaire la retrouve ensuite, il ne sera plus dispensé de la mitzvah de shiloach haken. Telle est la position de Rav. Veshmuel amar, kol echa de ite, bevegaza de rachmana ite. Shmuel répond à cela, quel que soit l'endroit où cette poule se trouve, elle se trouve toujours dans le domaine de possession d'Hachem. Dirtiv, l'Hachem ha'aretz umloa. Comme dit le verset, à Hachem appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Ainsi, bien qu'un katshe misbeach n'est qu'une kdushat damim, la sanctification ne concerne que sa valeur financière, malgré tout, selon Shmuel, cette kdushat damim ne disparaît pas lorsque l'oiseau s'enfuit, et on reste tenu par la mitzvah de Shiloh HaKen lorsque l'on va retrouver cet oiseau. Vechen amar Rabbi Yochanan, le même enseignement avait été donné par les Amoraïm d'Eretz Israël. Rabbi Yochanan pense comme Shmuel que la Mishnah exclut le cas de quelqu'un qui aurait consacré sa poule au Beth Amikdash, au Bedek Abayit, et que cette poule se soit ensuite enfuie. Amarli Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, Vekevan Shemarda, Pakale Kdushata, si la poule s'enfuit, sa Kdusha disparaît. Amarli Bevegaza de Rachmana Ita. Rabbi Yochanan lui a répondu, où que cette poule se trouve, elle est toujours dans les entrepôts d'Hachem, dirtiv, l'Hachem ha'aretz umloa. Comme dit le verset, à Hachem appartient la terre et ce qu'elle contient. Ainsi, lorsqu'un oiseau a kdushat aguf, qu'il est destiné à être lui-même un korban, même lorsqu'il s'échappe, il garde cette kdusha. S'il a seulement kdushat damim, qu'il est destiné au Beth Amikdash mais pas pour être korban, s'il s'échappe, il y a une divergence d'opinion au niveau de la kdusha. D'après Rav, elle disparaît. Et selon Shmuel et Rabbi Yochanan, la Kdusha demeure même lorsque l'oiseau s'échappe, comme dans Kdusha Taguf. Dans le cas d'un oiseau Khulin, qui n'a pas été consacré au Beth Amikdash, s'il s'échappe, le propriétaire désespère de le retrouver. Il est donc Efker, abandonné, et celui qui le trouve peut en prendre possession. Celui qui le trouve est également tenu de réaliser pour cet oiseau la mitzvah de Shiloh HaKen. Le Rashba explique la différence que Rav fait entre Kdusha Damim et Kdusha Taguf. Lorsque l'oiseau est simplement Kdushat Damim, ce n'est pas l'oiseau lui-même qui devient propriété du Hekdesh, mais sa valeur financière. Lorsque cet oiseau s'échappe, l'intendant du Beth Amikdash désespère de le retrouver, et donc le droit du Hekdesh sur la valeur financière de l'oiseau disparaît également, exactement comme dans le cas d'un oiseau Khulin, qui n'a pas été destiné au Beth Amikdash. Donc pour Rav, la possession du Hekdesh fonctionne exactement comme la possession de tout un chacun, et dès que l'objet disparaît de leur possession, il devient Efker, exactement comme un objet dont son propriétaire a désespéré de le retrouver. Et donc de même, la Kedusha, la sainteté des objets appartenant au Hekdesh, disparaît. La position de Shmuel et de Rabbi Yochanan se justifie de la façon suivante. Dans le cas d'un objet possédé par le Hekdesh, on ne peut appliquer les règles qui ont cours dans le cas de la possession de tout un chacun. Étant donné qu'en ce qui concerne le Hekdesh, on ne peut jamais dire que l'objet sort du domaine de possession du Hekdesh. Même lorsque l'objet n'est plus utilisable par le Hekdesh car il est égaré, étant donné que l'ensemble de la terre est le domaine de possession du Hekdesh. C'est pour cela que même lorsque l'oiseau s'échappe, sa Kedusha ne disparaît pas. Il y a donc trois cas à distinguer. Si l'oiseau a Kedushat Agouf est destiné à être un korban, même s'il s'échappe, sa Kedusha ne disparaît pas. S'il s'agit d'un oiseau Khulin, qui n'est pas consacré au Beth Amikdash, d'après tout le monde, lorsque l'objet est perdu, il est Efker, abandonné. S'il s'agit d'un oiseau, on sera tenu de réaliser la mitzvah de Shiloh Haken. Et enfin, dans le cas où l'oiseau a Kedushat Damim, qu'il est destiné au Beth Amikdash, mais pas pour être un korban, il y a une divergence d'opinion entre les Amoraïm. D'après Rav, la Kedusha disparaît comme dans Khulin, comme dans le cas des oiseaux du commun. Pour Shmuel et Rabbi Yochanan, la Kedusha ne disparaît pas comme dans Kedusha Taguf, car l'Hashem Ha'aretz Umloa, quel que soit l'endroit où cet oiseau se trouve, il est dans le domaine de possession du Hekdesh. La Gemara va opposer à cela un autre enseignement. Veramed Rabbi Yochanan ad Rabbi Yochanan, Veramed Rabbi Shimon ben Lakish ad Rabbi Shimon ben Lakish. Dans ce second enseignement, il va apparaître une contradiction entre les positions respectives de Rabbi Yochanan et de Rabbi Shimon ben Lakish. Des Itmar, les Amoraïm ont enseigné, Manezé le Bedek Abayit, si quelqu'un a destiné une somme d'argent de Mané, 100 zouz, pour le Beth Amikdash, Venigdevu Onevdu, cet argent a été volé ou perdu, Rabbi Yochanan Amar Chayav Be'achiyotan, Hachiyavu Lidi Gizbar, d'après Rabbi Yochanan, cet homme a la responsabilité de veiller à ce que cette somme soit remise dans les mains de l'intendant du Beth Amikdash. Si cet argent a été perdu auparavant, il devra donc le remplacer. Veresh Lakish Amar, Kol Echa de Ite, Bevegaz de Rachmana Ite. Dirtiv, Lashem Haaretz Umloa. Rabbi Shimon ben Lakish dit, quel que soit l'endroit où cet argent se trouve actuellement, il est toujours situé dans le domaine de possession du Hekdesh. Comme dit le verset, à Hashem appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Kashi Aderesh Lakish Aderesh Lakish, Kashi Aderabi Yochanan Aderabi Yochanan. Les deux enseignements rapportés au nom de Resh Lakish se contredisent. Il en est de même pour les deux enseignements rapportés au nom de Rabbi Yochanan. En effet, Resh Lakish, qui disait plus haut que lorsque la poule qui a été destinée au Beth Amikdash s'est sauvée, sa Kedusha devrait disparaître, emploie ici les mêmes termes que Rabbi Yochanan a formulés dans sa réponse, à savoir que la terre entière est le domaine de possession du Hekdesh. De Resh Lakish à Resh Lakish lo kashia. Il n'est pas difficile de résoudre la contradiction entre les deux enseignements de Resh Lakish. Ha mekame de shame mi Rabbi Yochanan Rabbe. Un enseignement a été donné avant qu'il ait entendu la réponse de Rabbi Yochanan son Rav. Ha le batar de shame mi Rabbi Yochanan Rabbe. Et l'un, après qu'il ait entendu la réponse de Rabbi Yochanan. Dans le cas de l'homme qui s'est engagé à donner de la tzedaka au Beth Amikdash, Resh Lakish utilise la réponse qu'il a entendue et retenue de son Rav, que quel que soit l'endroit où cet argent se trouve dans le monde, il n'est pas en dehors du domaine de possession du Hekdesh. Et là, de Rabbi Yochanan, Kashia. Mais il semble y avoir une contradiction réelle entre les enseignements de Rabbi Yochanan. La Gemara répond, de Rabbi Yochanan, nami lo kashia. On peut résoudre également cette contradiction. Ha de Amar alai, ha de Amar harezu. Il y a deux façons d'exprimer un vœu d'apporter quelque chose au Beth Amikdash. On peut dire, hare alai, je prends sur moi d'apporter telle somme d'argent. Ou bien, harezu. En parlant d'une somme d'argent précise, on dit, cette somme-là est destinée au Beth Amikdash. Dans le second enseignement, lorsque quelqu'un fait vœu d'apporter une somme d'argent au Beth Amikdash, Rabbi Yochanan a compris que cette personne a dit, hare alai. Je prends sur moi d'apporter une manée sans ouz au Beth Amikdash. Cet argent a été perdu, même s'il est vrai que quel que soit l'endroit où il se trouve, il est dans le domaine de possession du Hekdesh. Mais d'autre part, tant que cet homme n'a pas remis cette somme d'argent dans les mains de l'intendant du Beth Amikdash, il n'a pas réalisé le vœu auquel il s'est engagé. Dans le premier enseignement, en revanche, dans le cas de la poule qui s'est échappée, il s'agirait d'un vœu qui a été formulé de la façon Arezu. Cette poule-là est destinée au Beth Amikdash. Et dans ce cas, Rabbi Yochanan peut tout à fait avoir recours à l'idée que, quel que soit l'endroit où se trouve cette poule, elle est dans le domaine de possession du Beth Amikdash. La Gemara pose alors une question. Niklal de Rabbi Shimon ben Lakish, Afalgav de Amar Alay Lomechayev, si l'on établit que le dernier enseignement parle dans un cas où l'homme qui a fait vœu d'apporter une somme d'argent au Beth Amikdash a dit Alay, je prends sur moi d'apporter cette somme au Beth Amikdash. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Lakish, qui parle forcément du même cas, dira que si cette somme d'argent a été perdue, la personne sera dispensée de le remplacer. Ve'atnan, il y a pourtant une Mishnah qui dit le contraire. Ezeuneder, Ve'ezoin et Davin. Quelle est la différence entre les deux sortes de vœux qu'on appelle Neder et Nedava? Neder, à Omer, Are Alai Ola. Un Neder sera formulé de la façon suivante. Are Alai Ola. Je prends sur moi l'engagement d'apporter un Korban Ola au Beth Amikdash. Nedava, à Omer, Arezu Ola. Nedava est formulé de la façon suivante. Cet animal-là sera destiné à être un korban ola. Uma ben neder le nedava. Quelle différence halachique y a-t-il entre un neder et une nedava? Neder meta o nigneva o shavda chayav berchiusa. Dans le cas de neder, si l'animal est mort, qu'il a été volé ou perdu, celui qui s'est engagé au neder en sera responsable et devra donc le remplacer. Nedava meta o nigneva o shavda eno chayav berchiusa. Dans le cas d'une nedava, si l'animal est mort, a été volé ou s'est perdu, on n'en a pas la responsabilité, on ne sera pas tenu de le remplacer. Donc comment, dans un cas de Arialai, où l'homme s'est engagé à donner une somme d'argent sous forme de neder, Resh Lakish peut-il tenir que l'on n'est pas tenu de remplacer cette somme en cas de perte? Amar lecha Resh Lakish, hanemile katshe misbeach, demechusar akrava. Resh Lakish te répondra, la Mishnah que l'on vient de citer, et qui rend responsable l'homme dans le cas d'un neder jusqu'à ce qu'il arrive à bon port, parle seulement dans le cas de katshe misbeach, si l'on s'est engagé à apporter un korban au Beth Amikdash. Et effectivement, tant qu'il n'a pas apporté l'animal dans la Hazara, la cour du Beth Amikdash, il n'est pas quitte de son engagement, car il n'a pas offert de korban. Aval katshe bedekabait, delav mechusar akrava. Mais dans le cas où l'animal a été destiné au Beth Amikdash, mais pas pour être un korban, mais simplement kdushat bedekabait, dans ce cas, le fait d'approcher l'animal dans la cour du Beth Amikdash ne fait pas défaut à son engagement. Afal gav de'amar alai, lomechayev. Dans ce cas-là, même s'il a dit « je prends sur moi d'apporter telle somme au Beth Amikdash », dès qu'il a mis de côté cet argent, il est quitte de son engagement, car l'argent, où qu'il soit dans le monde, entre en possession du Hekdesh, même s'il ne l'a pas concrètement apporté à l'intendant de Beth Amikdash et que cet argent a été perdu. Son éder sera cependant considéré comme réalisé. La Gemara pose une autre question à partir d'une Mishnah dans Erchin. « Vehatnan, Aomer Shorze Ola, Baitze Korban » Lorsque quelqu'un fait le vœu d'offrir un taureau en korban ola, ou une maison en korban, on voit ici que bien qu'il s'agisse de Kdushat Bedekabait, le mot korban est cependant employé, même s'il s'agit uniquement de la valeur de la maison qui est offerte au Beth Amikdash. Met Ashor Nafalabait, Eno Chayav Bachriyutan. Si le taureau est mort ou que la maison est tombée, il n'en aura pas la responsabilité financière et ne devra pas en apporter d'autres au Beth Amikdash. Shorze Alai Ola, Baitze Alai Korban. Mais s'il a dit « je prends sur moi à l'ail d'apporter ce taureau comme korban ola » ou bien « je prends sur moi d'apporter la valeur de cette maison au bedekabait » metashor v'nafalabait chayav l'eshalem. Si dans un tel cas le taureau est mort ou que la maison soit tombée, il devra cependant les rembourser au Beth Amikdash. Comment donc Resh Lakish a-t-il pu établir une différence entre Kdushat bedekabait et Kdushat Mizbehar? On voit dans cette Mishnah que s'il a dit « à l'ail » même s'il s'agissait dans le cas de la maison de Kdushat Bedekabait, lorsqu'elle est tombée, il en a la responsabilité financière et devra quand même en donner la valeur au Beth Amikdash pour s'acquitter de son engagement. Resh Lakish répondra, Hanemile echad emet ashor v'nafalabait chayav l'eshalem delitneu. Dans le cas où la maison qu'il s'était engagé à donner au Beth Amikdash en disant Are alai est tombée, il en sera cependant responsable et devra en apporter la valeur au Beth Amikdash, car maintenant que cette maison est tombée, elle n'existe plus. Et on ne peut dans ce cas avoir recours à l'idée que, en quelque endroit où elle se trouve, elle est dans le domaine de possession du Hekdesh. Aval echa de itneu, kol echa de ite, beve gaza de rachmana ite. Dirtiv l'ashem ha'aretzul mloa. Mais dans le cas de l'argent qu'on s'est engagé à apporter au Beth Amikdash, étant donné qu'il existe quelque part dans le monde, même s'il a été perdu ou nous a été volé, il peut cependant être considéré comme se trouvant dans les entrepôts du Hekdesh. Car à Hachem appartient la terre et tout ce qu'elle enferme. Amar avamnuna. La Gemara rapporte au nom de Rav Amnuna l'enseignement suivant. C'est dans la paracha de Berukotai que la Torah nous parle de ces vœux particuliers que sont les Erchin. Si quelqu'un dit Erchi Alai, je prends sur moi d'apporter ma valeur au Beth Amikdash ou la valeur d'une telle personne, il sera dans ce cas-là tenu d'apporter une somme d'argent fixée par la Torah en fonction de l'âge de la personne en question dont il s'est engagé à apporter la valeur au Beth Amikdash. Rav Amnuna enseigne à ce propos, si cette personne a mis de côté la somme d'argent correspondant au erreur qu'il s'est engagé à donner, et que cet argent a été perdu ou volé, il ne sera pas tenu de le rembourser. Maïtahama, delo mitmarle, delo alai. Pour quelle raison? Car un tel vœu de Erchin ne peut être formulé sans employer le mot alai. Erchi lema. Comment pourrait-on dire autrement? Lema erchi, aman. S'il dit simplement ma valeur, sur qui reposera cet engagement? Lema erer ploni, s'il dit la valeur d'un tel, aman, à qui va être appliqué cet engagement? Matkif la Rava. Rava objecte à Rav Amnuna. il y aurait une façon d'exprimer les erin sans employer le mot alay, en disant areni be'erki, areni be'erkluni, me voici, sous-entendu engagé à donner ma valeur ou la valeur d'un tel. Veod, deuxième question de Rava sur Rav Amnouna. Tania, il est enseigné dans une braïta. Rabbi Nathan Omer, Venatan et Taerkecha Bayom Ahu Kodesh Lachem. Lorsqu'un homme a été Magdish, il a consacré au Bet Amigdash un champ, et qu'il veut ensuite racheter ce champ du Hekdesh. Le Kohen va évaluer la valeur de ce champ en fonction des années qu'il reste jusqu'au Yovel à venir. Il donnera ce rachat ce jour-là, qui sera sanctifié pour Hachem. Le mot Haerkecha est en plus dans le Pasuk. On aurait pu dire Venatan Oto ou Venatno. Si ce mot n'apporte pas d'enseignement dans le cas du rachat d'un champ qui a été Hekdesh, on va l'employer au sujet des Erchin. Matan Mudlomar, qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner par ce mot? Et fiche Matinu Bek Deshot ou Maasrot, chez Mitralelin Almaot, chez Bechulin, Negnevu, ou chez Avdu, Enan Chayavin Beachriutan, si un homme possédait du Maaser Sheni, prélèvement de moins d'un dixième de la récolte qui doit être consommée à Yerushalayim, il a la possibilité d'être Mechalel, de racheter ce Maaser Sheni par de l'argent, et cet argent recevra alors la Kedusha, la sainteté de Maaser Sheni, et devra être dépensé à Yerushalayim. Si cet argent a été volé, il n'est pas tenu de le rembourser. En effet, le verset dit « Ve'yassaf ramishit kesef erkecha alav ve'hayalo » Il ajoutera un cinquième de la valeur, et ça sera à lui. Il n'est pas mentionné dans le verset que cet argent doit être remis à l'intendant du Bet Hamikdash, mais dès qu'il a fait passer par sa parole la sainteté du Maaser Sheni sur l'argent, le Maaser Sheni perd instantanément sa Kedusha et elle est transférée sur l'argent, même si cet argent a simplement été mis de côté.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page. Yachol Afzeken. J'aurais pu penser qu'il en est de même pour les Erchin, que dès qu'on aurait mis cette somme de côté, on soit quitte de son engagement, même dans le cas où cette somme serait par la suite perdue. Talmud Lomar Venatan et à Erkecha. C'est l'enseignement dans Erchin que l'on apprend de la deuxième partie de ce verset. Chulin Acheyavou Lidegizbar. Dans le cas de Erchin, contrairement au rachat du Maaser Sheni, l'argent destiné au Erchin reste Chulin et n'a aucune Kedusha avant qu'il ne soit remis dans les mains de l'intendant du Beit HaMikdash. Maseret Chulin, suite du cours sur le Daf Kouf Lamed Tet, au début du Hamoud Bet. En résumé, la Gemara vient d'analyser le verset de Vaikra, Perek Kavzaïn, verset Kav Gimel, qui dit « Vechishav lo ha-kohen et mirsat ha-erkecha ad shnat ha-yovel » Cette première partie du verset parle de celui qui veut racheter un champ qu'il avait consacré au Beit HaMikdash. Le Kohen procédera à une évaluation du prix de ce champ par rapport au nombre d'années qui restent jusqu'au Yovel, jusqu'au Jubilé. Le verset continue « Venatan et ha-erkecha bayom ahu kodesh lachem » Le verset parle ici des « erchin » lorsqu'une personne s'engage à offrir la valeur de quelqu'un au Beit HaMikdash. Il nous enseigne que si on a mis cet argent de côté, cela ne lui confère pas instantanément une kedusha, une sainteté, avant qu'il soit effectivement remis à l'intendant du Beit HaMikdash. Si avant cela cet argent a été volé, il devra donc être remboursé. Rava a donc apporté deux preuves de la non-validité de l'enseignement de Rav Amnouna, au point que la Gemara est obligée de rectifier l'énoncé de l'enseignement de Rav Amnouna. Ela itmar, achi itmar. Si l'enseignement a été donné, c'est comme ça qu'il a été énoncé. Amar Rav Amnouna, a kol modim be'erchin, de'afalgav de lo amar alay, mechayev. Tout le monde s'accorde à dire qu'en ce qui concerne les erchin, même s'il n'a pas dit alay, je prends sur moi d'apporter ma valeur au Beit HaMikdash, il sera quand même responsable de cette somme d'argent jusqu'au bout, et même s'il l'a mise de côté et qu'elle a été volée, tant qu'elle n'a pas été acheminée jusqu'aux mains de l'intendant du Beit HaMikdash, cette somme devra être remboursée. Dirtiv, tel que le pasouk l'enseigne, Venatan et Erkecha, il donnera la valeur, Chulin hen beyadcha, ad sheyavoli degizbar. Cet argent sera chulin, profane, et n'aura aucune kudusha, malgré le vœu qui a été prononcé de l'offrir au Beit HaMikdash, tant qu'il n'a pas été remis dans les mains de l'intendant du Beit HaMikdash. On apprend cela par le fait que le verset insiste, en disant Venatan, il donnera, pour dire que c'est le fait de remettre l'argent qui est déterminant, pour considérer que cette somme d'argent est devenue kadosh, consacrée au Beit HaMikdash. Nous avons appris dans la Mishnah qu'il y a un chomer de kisui adam mishiloh haken. La mitzvah de kisui adam, de recouvrir le sang après l'abattage rituel, a un domaine d'application plus étendu que la mitzvah de shiloh haken, car kisui adam s'applique aussi bien aux animaux sauvages qu'aux oiseaux, que l'animal soit en notre possession ou pas, alors que Shiloh HaKen ne s'applique qu'aux oiseaux et uniquement lorsque ceux-ci ne nous appartiennent pas. La Gemara rapporte une braïta, Tanou Rabanan, qui est carré quand si le fanecha, lorsque tu rencontreras un nid d'oiseau. Matan Moudlomar, qu'est-ce que le verset vient nous apprendre? Les fiches Nehemar, Shalert et Shalar et Taem, Vetabanim Tikar Lecha, tu renverras la mère et tu prendras les petits pour toi. Et il y a une insistance dans Shalert et Shalar où le verbe renvoyer est employé deux fois. Yachol Yerzor Beharim ou Vegvaot, Kedeshe Imtsa Ken, j'aurais pu penser que l'on doive aller courir par monts et par veaux afin de trouver un nid d'oiseau pour réaliser cette mitzvah. Talmud Lomar, qui est carré, Bemeora Lefanecha. C'est pour cela que le verset nous enseigne qui est carré, s'il advient que tu rencontres sur ton passage, c'est-à-dire si la situation s'est produite d'elle-même, et non que tu sois parti en quête de ce nid dans les campagnes. Ken, Mikol Makom. Le mot Ken, ni, nous enseigne qu'on en est tenu de réaliser le mitzvah, dans tous les cas, même si ce nid ne comporte qu'un seul œuf ou oisillon. Tzipor, Teora Velotmea. Si la Torah a choisi d'employer le mot Tzipor et non pas Of, qui signifie également oiseau, c'est pour nous dire que la mitzvah ne concerne que les espèces d'oiseaux Taor, c'est-à-dire Kshérim, que l'on a le droit de consommer. Car dans l'ensemble du Tanakh, comme on va le voir plus loin, le mot Of sous-entend aussi bien les espèces Taor que Tamé, Kacher que non Kacher, alors qu'on n'a pas trouvé de verset dans lequel le mot Tzipor se rapporterait à une espèce non Kacher. Donc Tzipor signifie uniquement les espèces d'oiseaux Kacher. Théorim, Lefanech, le verset a dit « si tu rencontres devant toi ». Cela vient inclure Birchut Hayachid, un domaine privé, mais il s'agira ici d'une cour par exemple qui n'est pas gardée, car s'il s'agissait d'un domaine gardé, dès que le nid ou tout objet s'y trouve, il y a automatiquement Kinyan Khatser, acquisition au propriétaire de tout objet se trouvant dans sa cour. En revanche, si l'on rencontre le nid d'oiseau dans notre propre cour mais qui n'est pas gardé, on aura la mitzvah de Shiloh HaKen. Baderer, Birchut Arabim. Du mot Baderer, on apprend que lorsqu'on rencontre le nid d'oiseau dans un domaine public, on est tenu de réaliser la mitzvah de Shiloh HaKen. Beilanot Minayin, d'où sait-on que si l'on rencontre ce nid sur un arbre, que l'on est tenu de faire la mitzvah de Shiloh HaKen, Talmud Lomar Bechol Etz, le verset dit sur tout arbre. Le Torah Tmima explique que la question était d'où sait-on que si l'on rencontre le nid d'oiseau sur un arbre fruitier, on est tenu de renvoyer la mère. Étant donné que le verset dit Bechol Etz, cela inclut non seulement les arbres qui ne portent pas de fruits, que l'on peut rencontrer en chemin, mais également les arbres fruitiers. Beborot Sichin Umearot Minayin, d'où sait-on que si l'on rencontre le nid d'oiseau dans un trou creusé par terre, on est également tenu par la mitzvah de Shiloh HaKen. Le bord est un trou rond, le siar est long et étroit, comme une tranchée, et les Mearot sont des trous recouverts d'un toit, des grottes. Talmud Lomar, O Al Ha'aret, le verset dit, ou bien sur la terre, ce qui inclut ces trois cas. Vechi Me'achar Shesofenu Lerabot Kol Davar, étant donné qu'on a appris dans la suite du verset que dans toutes ces situations, on est tenu de réaliser la mitzvah de Shiloh HaKen, les Fanech Abaderer Lamali. Pourquoi enseigner au début du verset, lorsque tu rencontreras le nid d'oiseau devant toi en chemin? L'Omar Lecha, c'est pour te dire, Maderer Shen Kino Biyadecha, Afkol Shen Kino Biyadecha. De même qu'en chemin, le nid n'est pas dans ta main, il ne t'appartient pas. De même, dans tous les cas où le nid ne t'appartient pas, tu seras tenu de réaliser la mitzvah de Shiloh HaKen. S'il est dans ta propriété, tu seras dispensé de cette mitzvah. Mikan Amrou, les Amoraïm ont déduit à partir de cette braïta, Yone Shovar et Yone Aliyah, Shekanu Batfichin Bebirot, si des colombes du désert ou celles qui sont dans les greniers sont venues faire leur nid dans des cruches ou dans des grandes constructions, Ve'avazim Ve'tarnegolim Shekanu Bepardes, ou bien qu'il s'agisse de canards ou de poules qui lui appartenaient, se sont échappés et sont allés faire leur nid dans les jardins, Ayav Beshiloar, on sera dans ces cas-là tenu de réaliser la mitzvah de Shiloh HaKen lorsqu'on les rencontrera. Avalkanu Betor Habait, et si ces oiseaux sauvages ont fait leur nid dans la maison, Vechen Yone Ardesaot, Patur Mishiloar. Ou s'il s'agit de Yone Ardesaot, une espèce de colombe apprivoisée, il n'y aura pas de mitzvah de Shiloh HaKen. Amar Mar, les Amoraïm m'ont enseigné à propos de la Braïta que nous avons citée, Maderer Shen Kino Biyadacha, Afkol Shen Kino Biyadacha. On a dit que l'on apprenait du mot Derer, qu'il fallait que le nid ne soit pas en notre possession pour que l'on soit tenu de réaliser la mitzvah de Shiloh HaKen. À la Mali, pourquoi ai-je besoin de cet enseignement? Mikiikare Nafka. On peut très bien apprendre du mot Kiikare lorsque tu rencontreras un nid d'oiseau. Kiikare Prat Lemezuman, ce qui exclut le cas où ce nid est en notre possession. Veod Lefanecha la Mali. De plus, qu'est-ce qu'on apprend du mot Lefanecha devant toi? Et là, Lefanecha, Leatouye Shayu Lefanecha ou Mardou. En fait, le mot Lefanecha vient inclure le cas d'oiseau qui était à toi, et se sont échappés. Tu seras alors tenu de réaliser la mitzvah de Shiluach HaKen lorsque tu les rencontreras, car ils sont désormais efker, abandonnés, ils ne sont plus en ta possession. Baderer, qu'apprend-on du mot Baderer, Kederaviuda Amarav, Deamaraviuda Amarav, Matzaken Bayam, Chayav Beshiluach. Si l'on rencontre un nid dans la mer, on est tenu de réaliser la mitzvah de Shiluach HaKen. Le cas peut se produire, par exemple, si un oiseau avait fait son nid sur un arbre, que cet arbre ait été emporté par le courant, et que l'on retrouve le nid flottant sur la mer. Sheneemar, Ko Amar Hashem, Anoten Bayam Derer. On voit dans ce verset que même au sujet de la mer, on parle de Derer, chemin. Comme dans la mitzvah de Shiluach HaKen, il est précisé également le mot Derer, on sera tenu de réaliser cette mitzvah, même lorsque l'on trouvera un nid sur la mer. La Gemara demande, et la Meata, Matzaken Bashamay, va-t-on alors penser que si l'on trouve un nid dans le ciel, que l'on soit tenu par la mitzvah de Shiluach HaKen? Dans le cas par exemple où un oiseau porterait un nid dans l'air, dirtiv derer nesher bashamaim, car même à propos du ciel, un verset emploie l'expression derer nesher, le chemin des aigles. Achinami de mechayev beshiluach haken, faudrait-il comprendre que l'on soit dans un cas pareil, tenu également par la mitzvah de shiluach haken? La Gemara répond derer nesher ikre, derer stama lo ikre. À propos du ciel, le verset emploie l'expression derer nesher, mais pas le mot derer tout seul. On ne sera donc pas tenu de réaliser dans ce cas la mitzvah de Shiluach HaKen. A partir de cette Gemara, le Rogo Tchover a voulu répondre à la question « Est-ce que quelqu'un qui prend l'avion doit faire Tfilat Aderer ?» La Tfilat que l'on fait lorsqu'on entreprend un voyage. Et il a dit « Étant donné que le ciel ne s'appelle pas Derer, il n'y a pas non plus lieu de faire Tfilat Aderer. » Dans la Lacha, beaucoup de poskim sont de l'avis contraire qu'il faut faire Tfilat Aderer, même avec des ajouts particuliers. Amre les Papounos et les Rav Matne. Les Papounos ont demandé à Rav Matne, Matzaken berochoshe la dame, Maou. Si l'on trouve un nid sur la tête d'un homme, y a-t-il ou non la mitzvah de Shiluach HaKen? Amar, il a répondu, Ve'adama al rocho. Il avait de la terre sur la tête. On voit dans ce verset que bien que la terre est sur sa tête, on l'appelle quand même Adama, et non pas Afar, poussière. Donc la terre, bien qu'étant située sur la tête de l'homme, garde le même nom que la terre dans son milieu naturel. Ça sera donc également considéré comme Al-Ha'aretz, et on sera donc tenu, dans ce cas, de réaliser la mitzvah de Shiluach HaKen. Le Maharal, dans l'introduction de son livre Or Hadash, sur la Megillat Esther, commente cette Gemara de la façon suivante. La question était sur la définition de l'homme. D'une part, il est créé à partir de la terre, mais d'autre part, son sechel, son intelligence, l'élève au-dessus du matériel. Et notre Gemara conclut que l'homme ne peut être considéré, en définitive, comme un être sikhli be'atmo, essentiellement intellectuel. Ces aspects matériels font qu'il doit être considéré, en ce qui concerne la mitzvah de Shiluach HaKen, comme assimilé à la terre. La Gemara continue. Moshe mina Torah, minayin. D'où a-t-on une allusion à Moshe Rabbeinu dans la Torah? Le Maharal relie cette question avec l'enseignement précédent. Étant donné qu'en fin de compte l'homme est défini par son côté matériel, à quel endroit dans la Torah Moshe Rabbeinu, le plus grand des Nevi'im, des prophètes, est-il défini ainsi? La Gemara répond « Beshegam hu basar ». Beshegam à la gematria de 345, qui est la même que Moshe. Le verset continue en disant « Ve'ayu yamav me'avesrim shana » et Moshe Rabbeinu également a vécu 120 ans. La Gemara voit dans ce verset une allusion que viendra Beshegam, Moshe Rabbeinu, qui vivra 120 ans. Rashi précise que la question de la Gemara était « Où trouve-t-on une allusion au nom de Moshe avant que l'on parle de sa naissance ?» Car après, il n'est pas une paracha de la Torah où on ne cite pas son nom plusieurs fois, hormis la paracha de Tetzavé. Aman mina Torah, minaïn. Où est-il fait dans la Torah allusion aux événements de Aman, qui au temps de Mordechai et Esther a voulu anéantir le peuple? La Gemara répond, Aminaetz, qui peut se lire également Aman, qui a en fin de compte fini pendu sur un arbre. Le Maharal commente que Aman a tiré sa force de pouvoir faire décréter l'extermination du peuple juif de la faute de Etz Hadaat qui a amené la mort dans le monde. Esther mina Torah minayin, où est-il fait allusion de la Torah à Esther? Va'anochi Aster Astir, Hachem dit dans les Torahot, je vais voiler ma face, qui fait allusion à une période de grande souffrance pour le peuple juif, comme à l'époque de Esther. Mordechai mina Torah minayin, où est-il fait allusion dans la Torah à Mordechai? Dirtiv, Morderor, qui est un des parfums qui constitue l'encens du Beth Amikdash, ou Metar Giminan, et qu'on traduit en araméen par Mera Daria, mots qui ont la même consonance que Mordechai. L'allusion au nom de Mordechai se trouve dans la composition des ktorets, de l'encens du Beth Amikdash, qui a eu la force d'arrêter l'hécatombe qu'il y a eu dans la paracha de Korach, lorsque Aaron HaKohen a pris l'encensoir et est passé dans le peuple. De même, Mordechai a su réveiller le peuple à la tshuva et déjouer les plans de Haman. Citons également l'explication que donne le Marsha sur notre Gemara. Pourquoi la Gemara pose la question seulement sur ces quatre noms-là? Car dans les quatre cas, ils avaient un nom supplémentaire. On sait que Moshe Rabbeinu avait d'autres noms, Tuvia, Avigdor, Mordechai s'appelait également Petachia, Haman, Memuchan, Esther avait également pour nom Hadassa, et étant donné que les noms qui sont employés n'étaient pas leurs noms essentiels, car le nom de Moshe a été donné par Batia, la fille de Paro, et les noms de Mordechai, Esther et Haman sont des noms parsiim, des noms perses, c'est pour cela que la Gemara en a recherché une allusion dans les versets de la Torah. Nous continuons la Gemara. Ve'ezehu she'eno mezuman, la Gemara avait cité les Yone Ardesayot, une espèce de colombe apprivoisée, pour laquelle on n'était pas tenu de réaliser la mitzvah de Shiloh Haken. Rabbi Chia et Rabbi Shimon. Chad Tane Adresayot, l'un disait qu'il fallait enseigner Adresayot avec le Dalet avant le Resh, Ve'chad Tane Ardesayot avec le Resh avant le Dalet. Mande Tane Ardesayot, Al-Shem Urdus. D'après celui qui enseignait Ardesayot, le nom de ces oiseaux leur avait été donné au nom du roi Urdus, Hérode, qui en avait intensifié l'élevage. Mandetane Adresayot, Al-Shem Mekoman. Pour celui qui pensait que le nom de l'espèce était Adresayot, cela était dû au nom de leur endroit d'origine. Amar Rav Kahana, les Didi Chazian Vekaiman, Shitsar Dare, Bepate Mila. Rav Kahana dit, j'ai vu moi-même 16 rangées de ces oiseaux, rangées dont chacune avait l'épaisseur d'un mille, à peu près un kilomètre. Ve'ave Kare, Kire Kire. Et ces oiseaux criaient, Kire Kire, qui signifie en araméen, mon maître, mon maître. Avechad minayu, des lois avekare kire kire. L'une d'entre elles ne disait pas kire kire. Amra le chaverta, suma, amre kire kire. La colombe voisine lui a dit, suma, tu es folle. Dis comme tout le monde, kire kire. Amra, le premier oiseau lui a répondu, suma, amre kire bire. C'est toi qui es folle, car celui que tu appelles ton maître est en fait un esclave. En effet, Urdus était un esclave de la maison des Hashmonaïm, qui a tué son maître et toute la famille des Hashmonaïm pour prendre le pouvoir. Atioa et Chartua, les Avadim de Urdus sont venus et ont tué l'oiseau qui ne criait pas comme les autres. Le Rav Goldwasser fait remarquer sur cette Gemara que l'on fait parfois toute une mise en scène pour masquer une vérité que l'on connaît trop bien. On sait par exemple qu'on n'est pas tellement honorable, mais en essayant de recueillir les honneurs d'un nombre public, on imagine parfois qu'on va oublier notre valeur réelle. Urdus faisait tout pour oublier qu'il était évède, jusqu'à dresser des milliers d'oiseaux qui piaillaient de tous côtés, tuer le maître, tuer le maître. Tout ça pour essayer de faire taire la voix intérieure qui disait « Tu n'es pas Kiré, tu es Biré, tu n'es qu'un esclave. » Cela expliquerait peut-être comment sur des milliers d'oiseaux, il a réussi à repérer le seul qui disait « Biré » à la place de « Kiré », la vérité qu'il cherchait tant à cacher. Amar Ravashi, Amar Liv Rav Hanina, Milin. Ravashi dit que Rabbi Hanina lui a dit, en entendant le fait rapporté par Rav Kahana, « Milin, ça n'est que des mots, les colombes n'ont jamais parlé. » « Milin, Salkadatar ? Comment pourrait-on dire cela ?» Alors que Rav Kahana témoigne l'avoir vu lui-même. Et là, Emma Bemilin. Il faut rectifier ce qu'a dit Rabbi Hanina à Ravashi. Il ne remet pas en question la véracité du fait rapporté par Rav Kahana, mais simplement que ces oiseaux ont appris à parler par des milines, des paroles, des formules magiques, et non pas par dressage. Le Harour, dans le Erer Mal, rapporte au nom de Rabbeinu Hananel que les oiseaux s'exprimaient dans le langage des oiseaux et que Rav Kahana comprenait ce langage. Pour conclure cette étude du Daf Kouf Lamed Tet, revenons sur un point étudié dans ce Daf. L'Agmara a dit, j'aurais pu penser qu'il faille courir les montagnes et les collines à la recherche d'un nid d'oiseaux afin de réaliser la mitzvah de Shiloh Haken. Talmud Lomar qui est carré, comme le verset a dit, lorsque tu rencontreras, il s'agit seulement d'un cas fortuit qui se présente à toi, et tu n'es pas obligé de partir à la recherche des nids. Le Chovat Yair, dans le Siman Samerzain, demande, lorsque quelqu'un trouve un nid sur son passage, est-il obligé de renvoyer la mer, ou peut-il continuer son chemin? A-t-il la mitzvah de renvoyer la mer seulement s'il veut prendre les petits, ou bien a-t-il cette mitzvah de toute façon, même s'il ne veut pas des oisillons? L'avis du Chovat Yair, et que l'on a de l'obligation de renvoyer la mer dès qu'on rencontre un nid sur son chemin, même si l'on n'est pas intéressé à prendre les oisillons. Il tire une de ses preuves de notre Gemara, car si lorsqu'on rencontre un nid, on n'était pas tenu de réaliser la mitzvah de Shiluach HaKen, comment la Gemara aurait-elle pu envisager que l'on doive partir chercher les nids dans les montagnes? Le Chovot Yair rapporte également la raison évoquée dans le Zohar, dont nous avons parlé dans le cours dernier, que lorsqu'on réalise la mitzvah de Shiluach HaKen et qu'on renvoie la mer oiseau, on éveille les appels et les lamentations de l'entité spirituelle appelée Ima Ilaha sur ses enfants qui sont en exil. Le Chacham Tzvi, dans la Tshuva Pezaïn, dit que l'on n'est pas tenu de prendre les enfants. On peut également renvoyer les deux, la mère, oiseau et les oisillons. Lorsque la Torah dit « tu prendras pour toi les oisillons », c'est un droit et pas une obligation. Citons également le Makné dans Kiddushin d'Afmé Malef, qui dit qu'il est évident pour lui qu'il n'y a pas d'obligation de renvoyer la mère si l'on n'est pas intéressé par les œufs ou les oisillons. Il s'oppose donc à l'avis du Chovot Yair. Fin du cours sur le Daf Kouf Lamed Tet. Choulin, Daf Kouf Mem. Le cours débute à la 8e ligne de la fin du Daf Kouf Lamed Tet Amud Bet. Of Tame, Pato Mineshaler. Nous avons appris dans la Mishnah que la mitzvah de Shiluach HaKen ne concerne que les oiseaux Tahor, Kacher, permis à la consommation, et qu'il n'y a pas de mitzvah de Shiluach HaKen en ce qui concerne les espèces d'oiseaux non Kacher. Mina Anemile. Quelle est la source de cet enseignement dans les versets? Amar Avitzrak, Damakra ki ikare kansipor, lefanecha. Avitzrak a dit, il est écrit dans le verset, lorsque tu rencontreras devant toi un nid d'oiseau. Il y a deux mots pour désigner un oiseau, le mot off et le mot tsipor. La Gemara dit, off mashmalan bentaor bentame. Lorsque c'est le mot off qui est employé, cela signifie aussi bien les espèces d'oiseaux kacher que non kacher. Tsipor, taor ashkechandi kretsipor. Tamé, loashkechandi kretsipor. En revanche, lorsque c'est le mot tsipor qui est employé, on a trouvé dans les versets que cela se rapportait aux espèces kacher, mais on n'a pas trouvé dans les versets que le mot tsipor désignait des espèces non kacher. Tel est l'enseignement de Rav Yitzhak, auquel la Gemara va apporter maintenant toute une série de contre-preuves. Tashma, viens écouter ce qu'enseigne la Braïta. Tavnit kol tsipor kanaf. Il s'agit du verset des Aseret Adiborot, où la Torah nous interdit de faire toute représentation idolâtre de tout volatile. Deux mots sont employés, tsipor et kanaf, qui signifient une aile ou un animal ailé. Il va de soi que l'interdiction de représenter des volatiles touche aussi bien les espèces d'oiseaux kacher ou non kacher. La Gemara comprend de prime abord le verset de la façon suivante. Maïlav, tsipor, bentaor, bentame, kanaf, chagavim. N'est-ce pas que le mot tsipor sous-entend les espèces d'oiseaux aussi bien kacher que non kacher et que le mot kanaf inclut les espèces de sauterelles? Là, la Gemara répond qu'il faut donner un sens différent à ces deux mots. Tsipor, taor. Le mot tsipor ne recouvre que les espèces d'oiseaux kacher. Kanaf, tame, vechagavim. Le mot kanaf englobe à la fois les espèces d'oiseaux non kacher et les sauterelles. Tashma, viens écouter ce qui est enseigné dans cette braïta. Achaya vechol behema remes vetzipor kanaf. David Ameler exprime dans ce verset que tous les animaux, aussi bien les animaux sauvages que domestiques, les rampants et les volatiles, tous louent Hachem. Là également, il est évident que même les espèces d'oiseaux non kacher louent également Hachem. La Gemara demande à nouveau, Maïlav, n'est-ce pas qu'il faut comprendre ainsi le verset Tsipor ben taor ben tamé vekanaf ragavim? Le mot tsipor devrait englober à la fois les espèces d'oiseaux kacher et non kacher, le mot kanaf, les espèces de sauterelles. Non, répond la Gemara. Tsipor taor, le mot tsipor ne recouvre que les espèces d'oiseaux kacher. Kanaf, tamé vechagavim. Le mot kanaf inclut à la fois les espèces d'oiseaux non kacher et les sauterelles. Tashma, viens écouter ce que dit la Braïta. Kol tsipor, kol kanaf. Dans la paracha de Noach également, les deux expressions sont employées, cette fois-ci séparément, sans être juxtaposées. La Gemara demande « Maïlav kedemakshinan ». Ne faudrait-il pas comprendre ce verset, comme on l'a proposé dans les deux braïtotes précédentes, que « tsipor » signifie à la fois les espèces kachères et non kachères d'oiseaux ?« Lo kedemshaninan ». Non, il faut comprendre également ce verset, comme on a conclu dans les deux braïtotes précédentes, c'est-à-dire que « tsipor » ne signifie que les espèces d'oiseaux kachères, et « kanaf », les espèces d'oiseaux non kachères et les sauterelles. Tashma, viens écouter encore une braïta qui rapporte un pasouk dans lequel les deux mots sont employés. Ve'ata ben adam emol et tsipor kol kanaf maïlav kedeakshinan. Ne faudrait-il pas comprendre ce verset comme on a voulu le comprendre précédemment, que tsipor signifie à la fois les espèces kachères et non kachères, Lo kedeshaninan, non, il faut le comprendre également comme on a répondu les autres baïtans. Tipo signifie uniquement les espèces d'oiseaux kasher, kanaf, les espèces d'oiseaux non kasher et les sauterelles.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.